Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Grand reportage en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays a longtemps été une terre de transit et de destination pour les migrants. 25% de sa population est constituée d'étrangers. Depuis quelques années, elle est aussi devenue une terre de départ pour les migrants en quête d'un avenir meilleur en Europe. Ce phénomène de migration clandestine s'est accentué depuis 2015 et a connu un pic de départ en 2016, avec autour de 13 000 personnes se réclamant de la nationalité ivoirienne, arrivant illégalement en Italie. En Côte d'Ivoire, les trois quarts de la population ont moins de 35 ans. Le pays connaît depuis 2012 des taux de croissance mirobolants, 7,4% en 2018. Et pourtant, les jeunes des classes populaires ne cessent de rêver d'un Eldorado européen fantasmé qui s'oppose dans leur esprit à un avenir bouché, à l'absence de perspective dans leur pays. Côte d'Ivoire, se cacher pour partir, le rêve d'Europe. Un grand reportage signé Pierre Pinto.
J'ai appelé ma mère, j'ai dit que non, bon, oui, moi je vais partir. J'ai insisté. Si elle me laisse pas partir, pas finir, je finirai par me cacher et pour partir. Alors, elle a dit, ah, d'accord mon fils, tu as tout mon soutien, si tu veux, tu peux partir.
La vaste commune populaire d'Abobo dans le nord d'Abidjan est traversée par une voie rapide qui borde ce qu'on appelle ici la casse, un quartier entièrement dédié aux pièces détachées automobiles. Le long de ce boulevard, de jeunes vendeurs alpaguent des clients pour vendre des pièces sur lesquelles ils touchent un maigre pourcentage. À la fin du mois, ceux qui s'en tirent bien auront empoché quelques milliers de francs. Karim, 21 ans, est l'un d'entre eux. Pour lui, la croissance économique vertigineuse de la Côte d'Ivoire, 7,4% par an, est un mythe qui ne le concerne pas. Son avenir est bouché, dit-il. Il n'a qu'un objectif, l'Europe.
C'est pas facile à Abidjan ici. Mais ici, on voit nos frères qui sont partis, d'autres ça va chez eux, d'autres ça va pas. Mais néanmoins, bon, nous aussi, on n'a pas envie de rester ici. Quoi. On a envie aussi de tenter aussi notre chance, voir ce que ça peut donner demain. L'Afrique, c'est l'Afrique, ça ne change pas. Donc on peut bien dire que non, c'est en Europe, on aimerait aller tenter nos chances aussi. Si ici ça ne va pas, la famille est là, tout le monde compte sur toi, tu ne sais pas quoi faire. Si la famille n'arrive pas à s'en sortir et toi tu es le seul garçon, la famille compte beaucoup sur nous quoi. On est là, ça ne va pas. T'as plus envie de rester ici, on est ici, on nous chasse, on n'arrive pas à s'en sortir ici. On est là, ils sont derrière nous, quitter ici, bon, on ne sait pas. On va aller travailler où? On ne sait pas. Si on a l'argent avec eux, on sait qu'on peut partir avec l'argent qu'on a eu comme bénéfice économique ici. On va se lancer. 2 ans, 3 ans, 4 ans, même s'il faut plus pour avoir l'argent. Bon. Si j'ai l'argent, je vais partir.
Quand on quitte la route pour pénétrer dans la casse d'Abobo, il faut enjamber des flaques d'huile et contourner les carcasses de voitures. Au cœur de ce dédale des trois truelles boueuses se trouve l'atelier d'Amadou Cissé, alias Dédé, spécialiste de crémaillère et formateur de jeunes apprentis. Ici dans la casse, la problématique des jeunes qui partent sur l'eau, comme on dit, est une préoccupation quotidienne.
J'ai formé des gens qui ont formé eux aussi des apprentis. Ça c'est moi mon objectif, c'est-à-dire les encadrer. Pour ne pas qu'ils puissent s'évader. Mais malheureusement, par manque de travail, d'autres sont obligés de se jeter à la mer ou aller à l'étranger. Et c'est ce que j'ai subi actuellement. J'ai pratiquement 8 à 10 apprentis qui sont en Europe. Malheureusement, parce que après avoir fait leur formation, ils n'ont pas eu de boulot.
En Côte d'Ivoire, 77% de la population a moins de 35 ans et nombre de jeunes sans perspective, nourris d'images souvent fausses véhiculées par les réseaux sociaux, rêvent d'un pseudo-Eldorado européen. Selon une étude de l'Organisation internationale des migrations, la majorité des Ivoiriens qui se lancent dans la migration vers l'Europe sont originaires de la moitié ouest du pays. Parmi ces villes de l'Ouest, Daloa, la troisième du pays, 300 000 habitants et une économie essentiellement tournée vers l'agriculture et le commerce. L'Europe, ceux qui y sont partis, les routes qui y mènent, le prix du voyage sont autant de sujets de discussion chaque soir dans les maquis de Daloa. Il y a encore 2 ou 3 ans, ce sont par dizaines, voire par centaines, que les jeunes quittaient la ville chaque mois pour prendre la route. L'ONG italienne Chevi est à Daloa depuis 2006. Aujourd'hui, Chevi fait de la sensibilisation auprès des populations et des autorités et aide les retournés à se réinsérer. Laura Vicentin, représentante de Chevi à Daloa.
Ce qui manque ici, c'est les opportunités pour les jeunes et surtout une perspective de stabilité. Parce que quand on est commerçant, on ne sait jamais combien on va gagner le mois. On ne sait pas si on va pouvoir envoyer les enfants à l'école. Daloa, c'est une grande ville, mais c'est comme si c'était un village à la fin, parce qu'il n'y a pas d'usine. Au-delà de la fonction publique, il n'y a pas des entreprises ici.
Beaucoup de jeunes travaillent afin d'économiser assez d'argent pour partir. Ces dernières années, la route la plus empruntée était celle de la Libye, via le Burkina et le Niger. Ibrahim Doumbia a 31 ans. Aujourd'hui, il a un petit atelier de couture en bord de route à Daloa. Pour lui, le périple libyen a duré plus d'un an et le rêve d'Europe a viré au cauchemar dès le désert entre Agadez au Niger et Séba dans le sud libyen.
Nous, on a fait une semaine dans le désert. Moi-même, j'ai eu sincèrement la chance. Sinon, c'est dans le désert, il y allait rester. Vraiment. Tu sais, les gens parlent beaucoup de la mer. Mais où les gens même restent beaucoup, c'est dans le désert. Souvent, bon, ceux qui nous transportent pour nous faire passer dans le désert, ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Les chauffeurs là-même, ils se droguent d'abord et avant de prendre le véhicule. Et souvent, il y a plusieurs accidents dans le désert. J'ai compté dans le désert un peu. Il y avait 16 pick-up, mais il y a 4 pick-up qui ont pu rentrer à Saba. Les autres, il y a eu accident. Et quand c'est comme ça, le désert même actuellement, je peux dire que c'est un cimetière. S'il y a problème d'eau, arrivé dans un moment, même ton frère, le peu d'eau qui te reste, tu ne peux pas le donner. C'est une histoire de suivi. Le désert, ce n'est pas du tout facile. Bon, celui qui nous transporte souvent, il veut même sortir avec nos soeurs. Mais la fille même ne peut pas refuser déjà. Parce que si elle refuse, nous tous on est bloqués dans le désert. Il faut arriver à savoir. Bon, souvent on a l'impression que non, que nos misères là, ça s'arrête là. Et pourtant non. Arriver à savoir, il y a une autre pasteur qui est là. C'est ces personnes-là maintenant qui doivent se charger maintenant de nous envoyer maintenant à Tripoli. Ou si lui ne peut pas nous envoyer à Tripoli, lui nous envoie à quelqu'un, à Benwali. À Benwali. On partait travailler dans ces champs, on était quelque chose de 450 personnes.
C'est-à-dire que dans la journée, vous travaillez dans les champs du passeur, et le soir, vous dormiez dans une prison?
Voilà. Bon, il y a une grande cour qui est là, mais on dort dehors. Ils avaient là-bas, ils appellent ça Asma Boy. Ils avaient des Asma Boy qui nous gardaient. Par contre, quand il fait soir, environ 20h, quand ce type-là, quand il finit de se droguer, il prend tout son temps, il commence à nous frapper. Bon, souvent, il veut des filles qui vivaient parmi nous. On est obligé de laisser nos seuls avec eux, tout en violé. C'était comme ça.
Ibrahim parviendra à s'évader de sa prison de Beni Walid. Au terme de nombreuses péripéties, il arrivera à Tripoli, où il tentera, avec des dizaines d'autres, d'embarquer pour une traversée de la Méditerranée à bord de 2 radeaux de fortune.
Il y avait la tempête, c'était pas facile, les vagues même étaient trop. Et ils ont commencé à couler. Bon, nous, on était obligés maintenant de s'éloigner un peu de... Parce que s'il y a d'autres qui essaient de plonger dans la mer pour remonter à nous, nous tous, on va couler. On les a regardés mourir, quoi. On ne pouvait pas.
Selon une enquête de l'OIM, les 3/4 des migrants ivoiriens sont des hommes, âge moyen 27 ans, mais 8% de ces candidats au départ sont des mineurs, souvent accompagnés, parfois non, et parfois très, très jeunes. C'est le cas de Junior, 11 ans et un regard d'acier. Il en avait 9 lorsqu'il a pris la route. Pour lui, l'aventure a duré 12 mois. Ce petit génie de l'électronique rêve de devenir ingénieur et d'en faire profiter sa famille. Son jeune âge ne lui a pas épargné la faim, la soif, les coups ou la captivité, ni même d'assister à des meurtres pour rien ou presque.
Il y a le désert, il y a la Libye, et puis pour traverser, c'était dur. On vient comme cela, on prend l'arme, on le tue parce qu'il a bu l'eau. Ouais, il a payé, ben il a mangé, on l'arrache son argent, on prend l'arme, on le tue, on le dépose. Si j'avais reçu, je préfère reçu ma famille parce que j'ai des petits frères. Il y a beaucoup de mes amis qui sont partis à tout cas. Ça vous a pris la route. Je peux partir si je vois que ça ne va pas encore, je peux retenter. Ou bien prendre une autre route. Si je vois qu'il y a une autre route, je peux prendre ça. Ma famille n'a rien, je préfère reçu ma famille.
Pour pouvoir partir, Junior a dû voler de l'argent que gardait son père, vendeur de pneus rechappés, environ 1 200 000 francs, 1800 euros. Adama, lui, est un ancien passeur. Il préfère se définir comme démarcheur. Quoi qu'il en soit, son ancienne activité l'a conduit derrière les barreaux pendant un an. Il y a 5 ans, quand fraîchement arrivé d'Abidjan, il s'est lancé à Daloa. Il s'est mis alors à envoyer sur la route une quinzaine de jeunes par mois.
À l'époque de la Côte d'Ivoire en Libye, on prenait 600 000 francs CFA, mais de la Côte d'Ivoire jusqu'en Italie, on prenait 900, 950 000. Cette époque-là, quand je prends quelqu'un comme ça, bon, bien avant qu'il décolle, je discutais avec la famille, parce que ça, on ne pouvait pas faire ce moment sans la famille. Il faut que la famille soit d'accord avec nous, bon, puis la somme, ainsi de suite, tout ça. Si on finit de tomber d'accord, bon, on donne le chemin, bon, au niveau des différents correspondants qu'on a dans les différentes villes, jusqu'à la ville d'Agadez. Maintenant, quand il arrive à Agadez, bon, la famille paye le restant d'argent, bon, le petit rentre, bon. Tous ceux qui ont été avec moi, bon, ça a toujours été avec l'accord de la famille. Bon, dès qu'il arrive un peu devant, on appelle la famille, bon, la famille verse un peu d'argent, et puis bon, on finance pour qu'il rentre jusqu'en Libye. Dès qu'il arrive en Libye, bon, le restant d'argent qui se retrouve avec la famille, on réclame.
Bon.
La famille est souvent sollicitée durant le voyage pour payer des passeurs ou des rançons. Mais les migrants envoyés vers l'Europe par leur famille sont rares. Généralement, la décision est personnelle, souvent même secrète, jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, le phénomène ralentit à Daloa. Les images ou les informations sur les risques ou les traitements infligés aux migrants d'Afrique subsaharienne en Libye ont fini par parvenir jusqu'aux oreilles des candidats au départ et de leurs familles. Largement diffusées par les ONG ou associations impliquées dans la sensibilisation, Ali Cissé, secrétaire général de l'Union de la Jeunesse Communale.
Avec les sensibilisations des masses, des causeries, des groupes où on faisait passer les images de certaines personnes qui ont voulu faire la traversée et aujourd'hui vraiment malheureusement qui sont restées. Et aussi avec les projections où par moment on montre des images où les gens se font torturer, tout et tout. Ça amène les jeunes vraiment à comprendre que vraiment le danger il est énorme. Donc du coup, ils nous posent la question, c'est vrai qu'on voit les dangers c'est énorme, mais est-ce qu'on pouvait les aider pour qu'ils puissent rester sur place? Et aussi, il faut dire quelque part, aujourd'hui avec la situation en Libye, ça aussi, je dirais, freiner le départ des jeunes. Et avec aussi les sensibilisations auprès des mamans, ça aussi freine parce qu'on a compris que les mamans constituaient la première source de motivation des jeunes. Donc je dirais, le fait que les gens soient vendus comme des esclaves, tout et tout, le fait qu'on maltraite des gens, le fait que des femmes soient violées, parce qu'on est censé ignorer qu'il y a des jeunes filles aussi qui s'adonnent à la migration. Et les parents n'avaient pas écho de cela. Ils disent que non, les jeunes filles se font violer. Donc quand on les sensibilisait et on leur disait « Mais est-ce que tu sais que ta fille qui fait cette traversée-là s'est fait violer ?» Et elle aujourd'hui en Europe, tu ne sais pas c'est quoi, elle fait comme travail, tout et tout. Est-ce que vous vous posez cette question-là? Et quand elle arrive, souvent elle s'attend à la prostitution pour pouvoir envoyer de l'argent. Elle n'arrive pas à accepter cela. Donc du coup, elles amènent leurs enfants à rester. Tant bien que quand certains veulent s'entêter, parce que chez nous en Afrique et surtout dans la communauté malinké, la malédiction d'une mère, vraiment, on ne joue pas avec. Donc elles font des menaces pour dire non, si tu t'as dans la migration, moi je t'ai banni, tu n'es plus mon enfant. Donc le jeune qui comprend le sens vraiment de cette phrase-là, automatiquement, s'est dit non, vraiment, je préfère rester pour ne pas vraiment faire du tort à la vieille.
Aujourd'hui, pour diverses raisons, la route libyenne est délaissée au profit de celle du Maroc notamment. Depuis 2017, en tout cas, l'OIM et l'Union européenne ont mis en place un programme d'assistance aux migrants. 3500 personnes en ont bénéficié. Marine Ashram, représentante de l'OIM en Côte d'Ivoire.
L'initiative régionale concerne 14 pays, dont la Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est d'offrir protection et information aux migrants sur la route, qui se trouveraient en détresse ou qui souhaiteraient tout simplement avoir conseils, informations, en connaître davantage sur les prochaines étapes et les risques qui y sont liés, à Agadez, à Gao, donc au Mali, au Niger, et puis en Libye, bien sûr. Ensuite, nous offrons toujours dans tous ces pays de transit, y compris dans la Libye, l'option de retour volontaire. Et pour ceux qui le souhaitent, nous travaillons avec les pays d'origine, donc avec l'ambassade de Côte d'Ivoire, par exemple, dans notre cas, pour la délivrance de laissez-passer. Puis nous planifions, donc pour la Libye, c'est surtout des vols charter. Ensuite, il y a un accueil à l'arrivée, enregistrement, bien sûr, avec les autorités, et puis l'assistance médicale, l'assistance psychologique, donc la prise en charge des traumatismes graves liés à la route souvent. Il y a un pécule d'appui à la réintégration qui est donné en 2 tranches. Donc tout ça a été développé conjointement avec le gouvernement. Et nous avons fixé avec le gouvernement le montant à 165 000 francs CFA, qui est un montant assez élevé, hein, qui est presque 3 fois le SMIC de Côte d'Ivoire, parce que l'idée, c'est de donner le temps de bien faire la réintégration.
Selon les dernières statistiques de 2015, en Côte d'Ivoire, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'étude de l'OIM démontre que ce ne sont pas les plus pauvres pour autant qui tentent de rejoindre l'Europe, puisqu'il faut pouvoir économiser environ 1 million de francs pour partir. Mais une chose est certaine, la croissance économique ivoirienne est loin de profiter à tous, et ces inégalités de plus en plus visibles poussent les laissés-pour-compte sur la route de l'Europe. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.
Cette critique, nous l'entendons régulièrement. C'est vrai qu'il y a un paradoxe entre ce taux de croissance qui contraste avec peut-être certaines réalités que nous vivons. Le gouvernement ivoirien en est particulièrement conscient et c'est la raison pour laquelle les années 2019 et 2020 sont placées sous le signe du social. Il n'empêche que des efforts considérables ont été faits en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Mais les jeunes de moins de 35 ans représentent 70% de la population ivoirienne. Et donc c'est une responsabilité. Je pense que c'est le principal défi que nous ayons à relever. Pas la Côte d'Ivoire seulement, mais la plupart des pays africains. Et donc il faut trouver les moyens pour que notre jeunesse puisse s'épanouir sur place. Parce que nous perdons des bras valides, nous perdons des cerveaux quand ils s'expatrient, ces jeunes, et c'est notre avenir, cette jeunesse. Je dirais à ces jeunes qui ont la démangeaison de partir et qui estiment que malgré tout ce qui a été fait, que l'herbe est plus verte ailleurs, rester en Côte d'Ivoire sur place, malgré les difficultés qui existent, il y a de réelles possibilités, il y a des opportunités. Nous mettrons l'accent sur l'apprentissage au métier, sur la formation. Tout dépend de ce qu'on peut offrir aux jeunes. Et je pense que nous leur offrons des perspectives en Côte d'Ivoire.
Elle souhaite se faire appeler Mimi. La trentaine, elle a tenté l'aventure en prenant l'avion pour la Tunisie, puis est passée en Libye pour tenter de traverser afin de rentrer en Europe, comme on dit ici. En Libye, le calvaire a duré 7 mois et s'est soldé par un rapatriement avec l'OIM. Depuis son retour, elle vit prostrée dans sa cour, submergée par la honte d'avoir échoué. Elle en a même fait un AVC, trop de pensées, dit-elle.
La manière dont tu rentres au pays, là, c'est pas cette manière que tu as décidé, c'est pas cette manière que tu as voulu. On est rentré avec des espoirs. On s'est dit qu'on a vraiment perdu du temps, on a perdu notre argent, on a perdu plein de choses. On n'avait vraiment pas le moral. Parce que je me disais que je préférais encore la mort que de revenir comme ça. Comment je suis de Daloa? C'est mon voyage qui m'empêchait de venir m'installer ici à cause de la honte, de gêne, le fait de partir, tu n'as pas réussi ton voyage, les gens vont mal t'interpréter. Voilà pourquoi je suis dans mon coin, je suis là, je fais rien pour le moment. Et tout ça, ça me stresse encore. Ça me stresse parce que moi-même, je suis déjà malade depuis mon retour. Donc, je prends des médicaments pour éviter trop de stress et tout. Du coup, je suis trop enfermée. C'était pas ça ma vie avant.
Route parallèle, route périlleuse. Ils sont des dizaines, des centaines, des milliers de tous sexes, de tous âges, éparpillés dans le désert englouti sous les vagues.
Côte d'Ivoire, se cacher pour partir, le rêve d'Europe.
Trouveront-ils une oasis pour s'abreuver? Atteindront-ils la terre ferme?
Un grand reportage signé Pierre Pinto, réalisation Pierre Chaffanjon, slam Romaric Kouamé.
Nos villes se vident, nos familles s'endeuillent, nos espoirs vacillent. Et pourtant, la même pratique continue. Je les voyais se rendre au cyber, acheter des passes et lire les publications flatteuses de certains survivants. Récits enivrants, promesses envoûtantes. Le virus les saisit et ils s'engageaient. Je me souviens qu'ils disaient « Je bâtirai des villas. La misère familiale prendra fin. Nous ne serons plus la risée du quartier. » Et elle qui disait « L'enfant dans mon ventre réussira. Il naîtra sous ses beaux cieux. » Au moment de partir, eux étaient en larmes. Mais la famille disait, c'est une preuve de courage. Absorbés par le signe de l'euro, on leur a porté des parures de héros et jetés sur le chemin périlleux de l'Europe par la voie de l'immigration clandestine. Combien ont ainsi disparu? Combien vont encore disparaître? Combien de familles sont sans nouvelles? Combien de filles et de femmes sont mortes sous les vagues sans connaître la joie de devenir mères? Fermons les routes de l'immigration clandestine, car c'est nos jeunes Africains qui mourront.